en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Lors de la séance du 31 mai 2013, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a donné la parole à Peter Miller pour la lecture de sa communication consacrée à l'étude des archives de l'humaniste Peiresque, dont les 50 000 pages conservées à Carpentras, Aix, Paris et ailleurs en Europe donnent une nouvelle image de la vie quotidienne à Marseille au XVIIe siècle, de ses marchands et de leurs voyages. S'appliquant à écrire l'histoire sous l'angle double de la narration et de la recherche historiographique, Peter Miller revisite l'histoire de la Méditerranée et celle de ses prédécesseurs Fernand Braudel et Chelmo Dove Gotien. Retrouvons-le en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Il était une fois, il y a à peu près 80 ans, qu'un groupe de Français nés en Corse et vivant en Alger décidait de créer une société qui promouvrait la contribution corse à l'Empire français nord-africain. Le nom choisi pour cette société et pour son journal, Bastion de France, avait été le nom d'un comptoir créé à la fin du XVIe siècle, détruite et reconstruite plusieurs fois au cours du siècle suivant. Mais pour un temps, de 1628 à 1633, son gouverneur avait été le Marseillais d'origine corse du nom 500 Napoléon. Le journal eut une vie relativement courte, 8 numéros ont été publiés pendant 3 ans. Son contenu se résumait à des nouvelles sur la communauté, quelques vignettes historiques ou un article de défense du patrimoine, la publicité occasionnelle comme celle qu'on vient de voir pour le Royal Kébir, et une section dédiée aux documents. Dans le premier numéro, par exemple, qui date de 1929, la section des documents contenait le rapport de 1631 fait par Napoléon pour le cardinal Richelieu sur l'importance du bastion de France pour la défense de la France maritime. En 1932, à la veille du 300e anniversaire de l'attaque de Napoléon sur la garnison de Tabarka, où il avait perdu sa vie, la société se chargea de rénover le site du Bastion de France et d'y mettre une statue à la mémoire de Napoléon. Ils eurent aussi l'idée, et on ne sait pas comment, de dédier la section des documents du journal à l'impression des lettres de Napoléon à Peiresque, le fameux humaniste d'Aix qui naquit en 1580 et mourut en 1637. Dans le numéro d'avril 1932 du journal, il y a une brève notice annonçant au lecteur la découverte, et je cite, « après bien des recherches d'un véritable trésor documentaire à la bibliothèque Anne-Guimbertine de Carpentras ». Fin citation. La bibliothèque contenait 42 lettres de Peiresque à Jean Gazy, qui vécut dans la maison de Napoléon à Marseille pendant les absences de ce dernier à Alger et à Paris, à Lazarin de Servien, le lieutenant de Napoléon au Bastion de France, et à Napoléon lui-même. Ce volume semble ne jamais avoir été envoyé à Alger. Dans le numéro suivant du journal, ce qui s'avère être son dernier, publié en juin 1932, une sélection de 7 petites notices, desquelles 6 avaient été tirées d'un volume différent, furent publiées. L'introduction, non signée à ces pièces, conclut « Nous espérions trouver dans les minutes et copies de la correspondance de Peiresque des documents importants. Notre attente a été quelque peu déçue. » Mais il y a tellement plus à apprendre sur Napoléon à Carpentras, que ce soit dans le volume initialement consulté ou dans celui qui a été finalement reçu. Si la personne entreprenant ce projet avait pris la peine de se familiariser un peu plus profondément avec la manière d'agir de Peiresque, il aurait non seulement trouvé les lettres destinées à Napoléon, mais aurait aussi appris beaucoup sur l'intérêt profond de Peiresque pour l'Afrique du Nord et le rôle des gens comme Napoléon dans son système. Mais ces pistes ne furent jamais prises. Quiconque fut celui qui fit la recherche sur Napoléon, il ne comprit jamais comment Peiresque gérait son réseau méditerranéen de correspondance. Les documents sur Peiresque-Napoléon furent publiés sans signature. mais on sait qu'un jeune membre de la Société Bastion de France, alors enseignant à Alger, fut celui qui avait publié ses documents sur Napoléon dans le numéro de 1929 du journal, et qu'il était spécialiste de cette période. Il est probable qu'il fut choisi comme directeur du projet. Et cela nous amène à poser cette question. À quoi aurait pu ressembler l'histoire de l'historiographie au XXe siècle si ce jeune savant, du nom de Fernand Braudel, avait vraiment réussi à comprendre comment Peiresque gérait les détails pratiques de sa large correspondance méditerranéenne? Pourrait-on imaginer comment quelqu'un avec le sens de Braudel pour la dimension matérielle de la culture se serait attaqué à la pratique d'un érudit antiquaire du XVIIe siècle? Ce qui revient à dire comment un historien d'orientation matérielle s'attaquerait à un corpus de preuves d'orientation culturelle, ou, pour le dire vite, comment l'histoire économique et l'histoire culturelle se croisent. Il était une fois, je commence encore, mais dans un temps plus proche à nous, sur la première page d'une société méditerranéenne, empruntant une formule de Gibbon, S.D. Goethein, maintenant le plus célèbre des érudits qui ont exploré et éclairé les Gnisas du Caire, le plus riche source que nous possédons pour la Méditerranée médiévale islamique, mais à ce moment-là, relativement inconnu comme historien, Goethein a écrit, et je cite, « J'ai conçu l'idée de ce livre le 17 septembre 1954, quand j'étais à Oxford à la recherche des trésors de la bibliothèque Bodleian sur les documents de Gnisa relatifs au commerce en Inde pour un livre toujours en cours de préparation sur ce sujet. » Et immédiatement après, Goethein ajoute, « Le 15 juin 1955, j'ai écrit au sujet de mon intention de publier un volume sur ce sujet à Clémence Heller de l'École pratique des hautes études, 6e section, Paris, qui avait fait beaucoup pour promouvoir la préparation de l'ouvrage sur le commerce indien. » Fin citation. Le premier volume d'une société méditerranéenne n'est publié qu'en 1965, et le cinquième volume a été publié en 1985. La même année que la mort de Goethein et de Braudel. Les volumes utilisent les 300 000 fragments de lettres des marchands dans le Gnisa pour écrire des livres sur la navigation des entreprises, la famille, la religion, la vie quotidienne et la mentalité. Heller n'apparaît plus dans l'œuvre publiée de Goethein, mais ceux qui ont l'œil attentif pour l'historiographie et une bonne oreille pour les dates auront noté que le directeur de la 6e section en 1954 fut nul autre que Fernand Braudel. Ces deux érudits pourraient bien avoir défini les études méditerranéennes en XXe siècle, mais ils semblent représenter deux manières très différentes de faire l'histoire. Grosso modo, la méthode de Braudel met l'accent sur les forces impersonnelles qui déterminent la portée des choix que font les gens, tandis que celle de Goethein se concentre sur la particularité des centaines d'individus nommés dont il reconstitua les récits de vie à partir de la Gnisa. En tant que chercheurs, Braudel et Goethein semblent représenter deux chemins distincts dans l'historiographie du XXe siècle. En outre, Braudel ne cite jamais Goethein dans sa Méditerranée, et Goethein lui-même explique, et seulement dans le dernier volume de 1985, qu'il n'avait jamais lu Braudel jusqu'à la publication de sa traduction anglaise en livre de poche en 1972. Bien sûr, l'histoire de Braudel aurait été plus convaincante s'il avait pu trouver un moyen d'accommoder la réalité de l'action humaine, et celle de Goethein peut-être plus attrayante s'il avait pu raconter une histoire plutôt que de faire conserver des documents individuels. En pensant à cette relation, on s'aperçoit bien de tout ce qui aurait été possible si seulement il y avait eu un lien réel entre les deux hommes, entre les deux champs historiques. Pourtant, un lien existait, car cette proposition isolée rend manifeste seulement d'une façon partielle une relation entre Gauthein et la sixième section de l'école pratique des autres études qui s'étendit sur plus de 10 ans et compris 124 lettres A et 2 LR et le directeur de la section Bradel. Ce lien à la sixième section n'est mentionné pas par Gauthein nulle part, pas même dans le livre sur l'Inde qu'il venait de publier. La proposition isolée mentionnant LR masque tout cela. En fait, du point de vue de l'historien de la recherche historique, cette proposition sur la première page du premier volume du livre de Gauthein cache une des grandes rencontres manquées de l'histoire de la pratique historique au XXe siècle. Il était une fois, mais maintenant nous sommes complètement dans un autre monde. Je ne connais pas le jour, mais nous sommes au mois d'août et l'année est 1629. Nous possédons un petit bout de papier. Imprimé avec une explication officielle passe-partout, il a été rédigé pour un usage spécifique. En le lisant attentivement, nous voyons que c'est une déclaration préfabriquée, datée de 1625, des consuls de la ville de Marseille, affirmant la santé du porteur du document, avec un espace laissé pour les noms à ajouter à la main. Les sceaux officiels et les blasons auraient été ajoutés lorsque le document était signé et exécuté. L'intention était que le document serait utilisé qu'une seule fois, puis jeté, recyclé peut-être en papier neuf. Cette copie est vierge, apparemment jamais employée pour le but visé. Mais il a été utilisé tout de même, transformé en papier bruyant, car sur le recto du papier, dans la main de Peiresque, nous trouvons en grosses lettres les mots « lettre samaritaine ». Peiresque nous raconte brièvement ce que cela signifie. Je cite « Lettre samaritaine originelle, écrite à feu Scaligé, lieu de Haza, par Elazar, grand prêtre des Samaritains, l'an 998, etc., qui est l'an de Christ, 1590, au calcul de Scaligé. » Fin citation. Scaligé avait écrit aux Samaritains cherchant des informations sur leur calendrier. Ils ont répondu en 1584 et il leur a à son tour adressé une autre série de questions sur les rituels aux dirigeants de la communauté à Haza. Leur réponse n'est jamais revenue à Scaligé. Plusieurs années plus tard, en février 1606, Peiresque lui a écrit, prenant sous lui la tâche de récupérer les informations qui se seraient égarées avec le vaisseau de Saint-Victor en partant de Marseille. Si un monsieur Ostagier, probablement Pierre Ostagier de l'élite famille de Marseille, se montre incapable de fournir des informations quant à sa localisation, Peiresque a écrit, je cite, « Je vais utiliser tous mes amis à Marseille qui font commerce avec le Levant pour le récupérer. » C'est ce document errant qui nous dévoile l'énigme de cette perte et qui nous ouvre aussi une fenêtre sur la Méditerranée de Marseille. Car dessous, Peiresque a attesté de la part de l'Odyssée de la Samaritana de Scaligé. Il note que les lettres sont, et je cite, « tombées en main de feu sieur Genébar, et puis de feu M. Paul Houreau, archevêque d'Aix, et finalement de sieur Billon, qui les avoir baillées à M. Galop, de qui je les y ai eux, en août 1629. » Dans le temps qui me reste, je veux parler de la relation entre Peiresque et la Méditerranée contemporaine à laquelle ce bout de papier fait allusion, c'est-à-dire la grande implication de Peiresque dans la vie commerciale du début du XVIIe siècle à Marseille. Je n'aurai qu'à noter dans cette assemblée auguste que l'histoire la plus récente de la ville pour cette période, bien qu'elle ne parle que de la commerce, est publiée dans les années 50 du dernier siècle. l'important travail de Wolfgang Kaiser, l'éminent étudiant de Marseille à la période du début des temps modernes et quelqu'un à qui je suis profondément reconnaissant pour son assistance, se concentre sur le XVIe siècle. Et le travail du défunt Charles Carrière, l'expert de la génération précédente, est axé sur le XVIIIe. Et la faiblesse relative des archives publiques pour les premières décennies du XVIIe siècle rend difficile de remédier cette lacune. Mais les archives de Peiresque, les 50 000 pages à peu près, se trouvant principalement à Carpentras et à Aix, mais aussi ici à Paris et dispersées à travers l'Europe, sont pleines d'informations sur la vie commerciale de Marseille, dès qu'on y cherche. Et grâce à cette participation étroite, nous pouvons apprendre davantage sur l'histoire des marchands de Marseille à partir de la lecture des lettres et notes de Peiresque qu'au dépouillement des archives publiques. Permettez-moi maintenant de rendre cette hypothèse un peu plus concrète en vous montrant la table des matières du livre que je viens de terminer, provisoirement intitulé « La Méditerranée de Marseille, les marchands, les marins, les missionnaires et un savant ». Ce livre a deux objectifs qu'il poursuit simultanément, l'un historique, l'autre historiographique. La première consiste à reconstruire les aspects de la vie quotidienne sur la mer au départ de Marseille dans les années 20 et 30 du XVIIe siècle à travers l'archive de Peiresque. La seconde est d'expérimenter avec une forme d'écriture historique qui se rapproche de l'expérience de travailler dans les archives, c'est-à-dire d'écrire la recherche plutôt que d'écrire une narration. Mais pour l'instant, je vais laisser de côté une discussion de cette question méthodologique. Dans le début de mon travail avec Peiresque, j'ai vu qu'il y avait deux grandes liasses de lettres d'environ 200-300 pages, une folio en tout, qui sont organisées autour de deux de ses amis qui ont voyagé au Levant. François-Auguste de Thou, fils du grand magistrat historien, qui était au Levant entre 1628 et 9, et Théophile Minuti, un père minime, que Peiresque a envoyé au Levant en 1929 et encore en 31. En outre, on retrouve ici les lettres qu'il a écrites à toutes les autres personnes impliquées dans le processus, de ceux qui ont amené des matériaux à Aix, à ceux de Marseille qui se sont occupés des détails sur le quai et des financements et du gouvernement, aux patrons qui possédaient les navires, aux capitaines qui les ont navigués, et puis ensuite, de l'autre côté du mer, les consuls, les marchands et les compagnons qui ont fait les connexions et les contextes dans lesquels les voyageurs opéraient. Ces dossiers contiennent 753 lettres à 184 destinataires. Il y a 324 lettres à destination de Marseille, 73 au Caire, 46 à Constantinople et 37 à Alep. J'ai aussi classé les lettres par destinataire. Jean-Baptiste Magie, un marchand basé à Marseille, a reçu le plus, soit 59 lettres, et son frère Jean au Caire en a reçu 25. Minuti a reçu 51 lettres et le même nombre de lettres a été envoyé aux Vénitiens Alvise et Luigi Gela à Marseille. Différents bénéficiaires ont bien sûr reçu différentes quantités de courriers au cours du temps. Les lettres à Minuti, par exemple, ont atteint un sommet au cours de ses deux visites dans le Levant et de même ceux de Dutou suivent ses visites au Levant, tandis que celle de ses correspondants à Alep augmente avec l'importance d'Alep pour Peiresque au milieu des années 30. Par métier, le rôle des commerçants est dominant. Il y a 330 lettres destinées à des marchands et 85 pour des diplomates, mis à part les 21 lettres à l'ambassadeur Marcheville à Constantinople. Tous ceux qui exerçaient des postes consulaires au Levant étaient des marchands. Il y a 15 lettres supplémentaires aux patrons qui possédaient des navires et 14 lettres à des destinataires identifiés comme capitaines. Il y a 109 aux missionnaires et 50 aux voyageurs. Le plus grand nombre de lettres ont été envoyées en 1630 34, 35 et 36. Ces années représentent un fort rebond des bouleversements qui subit encore le commerce de Marseille suite à l'épidémie de la peste des années précédentes. Cartographié par emplacement, nous voyons encore une fois que c'est dans la période 1633 à 36 que l'on retrouve un pic visible dans les lettres envoyées au Levant. Le plus grand nombre de lettres ont été envoyées en juillet et août, mais celui-ci ne présente pas de différence statistiquement significative par rapport au mois qui était de toute évidence propice au voyage, comme décembre, février, octobre et novembre. Et encore une fois, cartographié sur des destinations, nous ne voyons aucune différence entre les lettres envoyées au Levant en été et en hiver. Dans l'Orient de Peiresque, publié l'année passée, j'ai raconté la recherche effectuée par Peiresque pour les livres, les idées et les interlocuteurs savants dont beaucoup vivaient ailleurs qu'en Europe. Ces lettres, cependant, et l'histoire qu'il raconte montrent exactement comment Peiresque a mis main sur ces objets. La réponse est Marseille. Son projet intellectuel était possible grâce aux réalités de l'activité économique en Provence dans les années 20 et 30 du XVIIe siècle. L'histoire des études orientales de Peiresque fait autant partie alors d'une histoire méditerranéenne que d'une histoire de savoir. Peiresque était intégré dans la République des Lettres, mais aussi dans tout un complexe portuaire des marchands, des banquiers, des patrons, des capitaines, des marins et des voyageurs. Quels sont quelques des sujets que nous pouvons explorer à travers ces lettres? Permettez-moi de revenir à la table des matières. Marseille et Aix, la relation entre ces deux villes dans l'historiographie. Marseille et la Méditerranée française. La participation de Peiresque dans la vie politique française de la Méditerranée est vaste et fonctionne sur tous les niveaux, du bord du quai jusqu'au Palais Royal à Paris. Les lettres de Peiresque, la forme de la correspondance de Peiresque au Levant. Écrire au Levant. Une reconstruction au jour le jour pendant les 10 années d'écriture de Peiresque à la Méditerranée ottomane. Les noms de Peiresque. Les lettres sont remplies de noms. Comment pouvons-nous utiliser des noms en histoire? Le problème du détail. Peut-il y avoir trop de détails? Comment travaillons-nous avec les détails? La liaison postale. Grâce à Peiresque, nous découvrons l'institution de la poste en France et la manière dont il a pu insérer son emplacement provincial dans un réseau suffisamment fiable et rapide pour lui permettre d'être, comme Marc Fumaroli l'appelle si élégamment, le prince de la République des Lettres. Le dernier kilomètre, le mule et le roi. Il y a aussi une micro-réalité. Le voyage de 1000 kilomètres commence ou se termine avec le premier. Nous découvrons des muletiers qui tissent ensemble les villes et villages de la Provence dans les années 1620 et 30. Le réseau méditerranéen de Peiresque, les marchands de Marseille. La communauté marchande de Marseille s'anime à travers son archive. Les familles marchandes de Marseille. Ces marchands travaillent par groupes familiaux. Le réseau méditerranéen de Peiresque, financement, décaissement, remboursement. Des marchands effectuaient les fonctions bancaires privées de Peiresque et ont disposé des systèmes de paiement sur toute la Méditerranée. Nous découvrons par exemple des marges bénéficiaires et les primes d'assurance. Sanson-Napoléon, des personnalités telles que Sanson-Napoléon, cet homme que Braudel n'a pas réussi à mettre en lumière en 1932, s'anime à travers l'archive. La naturalisation des marchands. Une des façons que Peiresque a assuré la fidélité de ses amis marchands était en utilisant activement ses contacts politiques pour accélérer leur naturalisation ou bien celle de leur épouse et enfants. Les Nord-Africains à Marseille. La présence de Nord-Africains à Marseille en groupe ou individuellement peut être repérée grâce à ses archives. Les gens du Nord dans la Méditerranée. De même, la grande thèse de Bradel sur l'invasion du Nord peut être documentée en détail, mais aussi qualifiée et affinée à travers la correspondance. Le réseau méditerranéen de Peiresc, les capitaines de navires et patrons. Peiresc bénéficiait d'une relation étroite avec les capitaines et les patrons de la flotte de Marseille. Les tâches confiées aux capitaines, nous pouvons documenter les divers projets que Peiresc leur confia. Les pratiques portuaires, emballage, peste, quarantaine. Parce qu'une si grande partie de sa vie intellectuelle traversait la porte de Marseille, les lettres de Peiresc nous fournissent une sorte de guide pratique. Avec l'épidémie de la peste en 1630, cela devient une vitrine des précautions prises par la ville et de la tentative d'un homme à les déjouer afin d'accéder plus rapidement à ses biens. Les routes marchandes, les lettres indiquent les routes empruntées par les navires de Marseille comme s'ils voyageaient sur des routes terrestres. Cartographier la Méditerranée. Peiresc a participé à plusieurs opérations cartographiques reliant l'histoire de la cartographie à la pratique des marins. La Sicile, l'île était au centre de la mer et a également joué un rôle essentiel dans la Méditerranée de Peiresc. Le réseau méditerranéen de Peiresc, les individus en mouvement. La mobilité est devenue une catégorie clé dans les études contemporaines de la Méditerranée. Dans cette archive, nous pouvons apercevoir les déplacements des Turcs, des Maronites et des Juifs. Le nouvel de l'Empire ottoman. Les navires marseillais transportaient des marchandises, mais aussi des nouvelles, dont une partie était quand même exacte. Temps et en horaire. D'après les lettres, nous pouvons avoir une certaine idée de la vitesse de la communication. Nous constatons qu'elle n'est pas beaucoup plus rapide qu'elle ne l'était au XVe siècle, comme relaté par Bradel. Corsaire. La guerre de course était une menace constante pour les gens comme Peiresc qui déplaçaient constamment de la marchandise. La capture de son ami Minuti est racontée dans une série détaillée de lettres inédites. La rançon. Ce processus est élucidé par une micro-histoire, celle de la tentative de Peiresc à regagner le psautier hexaglotte qui est maintenant dans la bibliothèque du Vatican, Barberini Orientalia, manuscrit 2. Le réseau méditerranéen de Peiresc, les destinations finales. Les lettres étaient destinées à Constantinople, Smyrne, Alep, Damas, Tripoli, Sidon, Alexandrie, le Caire, Tripoli en Libye, Tunis et Alger. Ces endroits marquent l'étendue complète de la Méditerranée ottomane. Ce monde n'est pas couvert dans les études existantes des échelles et du réseau diplomatique français contemporain, ni même, je peux ajouter, dans les études ottomanes existantes. Les marchands en tant que partenaires intellectuels. D'une manière profonde, Peiresc a traité ses interlocuteurs marchands d'égal à égal, et nous pouvons détailler les projets qu'il les a confiés. Statistiques. Les marchands ont renvoyé des observations sur les conditions économiques et politiques détaillées de la façon que eux seuls étaient capables de faire. Peiresc se mêle de la politique consulaire du Caire. Avec ses contacts étroits à Paris et dans le Levant, on faisait appel à Peiresc comme agent négociateur dans la politique marchande. Peiresc et le voyage. Et bien sûr, Peiresc a été profondément engagé avec les réalités du voyage. Non seulement a-t-il lu et collectionné les récits du voyage, mais il a parrainé leur publication. Il avait lancé des projets spécifiques en Éthiopie, en Inde et au Yémen, ce dernier afin de stimuler les fortunes commerciales de Marseille. Comme j'espère l'avoir montré, la récupération de l'histoire de la Méditerranée au début du XVIIe siècle est liée à un recentrage sur les individus. La manière dont Peiresc a travaillé, non seulement sa documentation obsessionnelle fortuitement préservée, mais son approche à des idées, des objets et des circonstances à travers des individus nous permet de transcender la polarité Braudel-Goitain, les deux historiens monumentaux de la Méditerranée du XXe siècle. C'est dans la Méditerranée de Peiresc que nous apprenons sur la grande échelle en accordant une attention particulière à la petite. En agissant ainsi, nous aussi, et c'est par cela que je finirai, renouant avec une autre façon de faire des recherches sur le passé. En fait, de façon même qui a été fait dans le XVIIe siècle par Peiresque et ses amis. Je vous remercie.
Je vous remercie. Quelqu'un demande-t-il la parole après cette communication ? Monsieur Fumaroli.
Peter Miller, qui est un grand historien de Peiresque, connu par le livre paru en 2000 et qui reste le grand classique sur ce personnage extraordinaire, Peiresque Europe, Learning and Virtue in the 17th Century, Yale 2000. Peter Miller est actuellement le doyen du Bard Graduate Center, qui est installé à New York, une université de recherche privée extrêmement intense, avec des moyens sérieux. Et il exerce aussi, naturellement, non seulement des fonctions administratives, celles de Dean, mais celles de Professor of Cultural History. Son curriculum vitae est énorme. Il a démoli mon appareil d'impression, et donc je rappellerai simplement qu'il a obtenu, dans une année que j'ai oubliée, le fameux MacArthur Fellowship, une énorme bourse donnée à Chicago par la famille MacArthur, et dont ont bénéficié tour à tour des illustrations du nom de Momigliano ou de Cristallet. Et je crois que Peter est actuellement quelqu'un qui a rejoint la stature de ces grands maîtres qu'il a connus et dont il s'est inspiré. Mais il faut bien reconnaître aussi, vous l'avez vu à travers son discours, qu'une des lumières sur lesquelles Peter a orienté son immense champ de recherche, il a sans cesse développé, c'est évidemment Fernand Braudel et sa conception je dirais mondialisante de l'histoire et son refus de limiter l'histoire à la surface en la liant en quelque sorte à l'histoire économique, à l'histoire de la culture matérielle, puisque c'était un mot qui maintenant est devenu une sorte de mantra, comme on dit en américain, dans les cercles académiques. Alors, ce que j'admire beaucoup dans cet exposé, et ce que j'attends beaucoup du livre, puisque plus de 10 ans après Peiresque Europe va paraître ce livre très ambitieux sur Peiresque et la Méditerranée, c'est l'extraordinaire connaissance à laquelle s'est livré Peter Miller du fond Peiresque de l'Ingerbertine, qu'il est probablement le seul à avoir jamais exploré dans ses moindres détails, et d'ailleurs d'avoir à sa disposition chez lui, puisqu'il s'est offert le luxe de la reproduction de ce recueil épistolographique, et de pouvoir le consulter à tout instant, et même, je dirais, de pouvoir le quantifier. C'est que, tout d'un coup, on découvre que le grand prince de la République des Lettres, le grand humaniste, le grand philologue, l'encyclopédiste qui a été Peiresque, n'était possible que dans la mesure où il avait construit un extraordinaire réseau d'informateurs, de correspondants, et que ce réseau était si bien construit que l'étude de ce réseau change complètement, métamorphose complètement les études peiresquiennes. Elle quitte le domaine des humanités, si j'ose dire, pour devenir un extraordinaire document sur l'histoire économique, sur l'histoire militaire, en quelque sorte, de la présence française en Méditerranée, l'histoire diplomatique et toutes sortes de développement qui montre à quel point la politique de Peiresque, la politique érudite, entrait en sympathie et symphonie avec la politique de Richelieu d'accentuer la présence française en Méditerranée et de profiter des liens particuliers entre la France et Constantinople pour s'incruster davantage dans cette mer dont il sentait, lui, le cardinal. Et nous allons tout à l'heure parler d'un héritier direct de Richelieu, c'est le comte de Maurepas, qui a été ministre de la Marine pendant de nombreuses années sous Louis XV. Ces deux hommes exceptionnels avaient tout à fait senti que la France avait une vocation méditerranéenne et qu'elle l'avait non seulement sur le plan scientifique, sur le plan artistique, sur le plan linguistique, sur le plan, si j'ose dire, de la confrontation religieuse, mais également dans le domaine, évidemment, du pouvoir, de l'économie et de la réussite matérielle. Alors, j'attends beaucoup de ce livre et je remercie beaucoup Peter Miller d'avoir pris sur son travail et ses nombreuses conférences à travers le monde pour venir nous exposer le dernier état de ses recherches et de se faire connaître mieux de nous.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions après cette communication ? Oui, c'est notre secrétaire perpétuel.
Oui, monsieur, comme nous tous, je vous ai écouté avec un immense intérêt. Pour ce que vous disiez, ce que vous nous avez appris sur Peiresc et sa méthode vraiment si étonnante, et aussi pour ce que vous nous suggérez, point de vue de la méthode, parce que vous nous avez donné l'impression d'être à la fois, enfin je ne dirais pas comme, en mettant toutes les guillemets, toutes les précautions possibles, anti-brodélien et ultra-brodélien. Vous concluez sur le nécessaire recentrage sur les individus, mais d'autre part, vous ne vous contentez pas de la culture matérielle, mais vous êtes dans la démarche matérielle de l'érudit, vous vous intéressez aux méthodes matérielles de Peiresc. C'était quelque chose d'extraordinairement passionnant. Et on a envie de vous lire, par exemple, un simple titre, les tâches confiées au capitaine. Mais ça sent le goudron et la mer, et qu'est-ce que c'était ? Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je ne vous interroge pas là-dessus. Mais j'ai été frappé par cette remarque, enfin cette interrogation, si juste, et qui finalement se pose et devrait toujours se poser à nous sur le problème du détail. Peut-il y avoir trop de détails ? Comment travaillons-nous avec les détails ? Est-ce que vous pourriez, en un mot, nous dire ce que vous mettez là-dessus ? C'est vraiment intéressant.
Merci pour cette question et observation très accurate et précise. Pour moi, et je commence avec votre remarque sur l'ultra et l'anti-Bredel, c'est vrai que pour moi, la position de Guettin est et le contre-bradélien, c'est voir la possibilité d'écrire un type d'épos méditerranéen avec les individus, avec leur nom, ouais, au centre. Mais aussi, c'est vrai que pour moi et pour les autres, il y a le projet de Bradel est frappante et aussi séduisante, l'idée d'une totalité, mais aussi de saisir les détails spécifiques et à travers, comme dans un mosaïque, de faire un ensemble avec les détails spécifiques. Et aussi, pour moi, mais c'est une autre conférence entièrement, la vérité est que notre idée de l'histoire totale du XXe siècle est en la vérité au fin d'une transformation du pratique érudite des antiquaires à travers le XVIIIe et spécialement le XIXe siècle en allemand, à travers personnes comme Lamprecht, qui était l'enseigneur de Abbé Warburg, le patron de Pyrène. Les deux, Bloch et Huizinga, étaient à son institut à Leipzig. Donc, il y a un lien génétique entre les antiquaires et Bradel. C'est votre premier point. Le deuxième, le problème des détails, c'est le problème de la micro-histoire, la micrologie, qui était dans la critique des antiquaires, un des plus grandes choses, la propensité des antiquaires d'entrer dans les détails, et pas de contexte, pas d'histoire. Et pour nous aussi, ce reste un des problèmes pour comprendre et de valuer les antiquaires, mais aussi pour nous comme académiques professionnels, ce reste encore le problème de communiquer. Et aussi, comme gens curieux, il y a aussi l'attraction vers les détails. Donc j'utilise le fond Peiresc de reconstituer le débat sur la micrologie jusqu'à nos jours et la micro-histoire, et aussi de montrer en quelque façon où nous pouvons utiliser sans être détruits par les détails.
Merci beaucoup.
Si je peux ajouter un tout petit mot, non, je crois que la première image que vous nous avez montrée est l'image la plus politiquement incorrecte qui ait jamais paru sur les écrans de cette salle. Il faut que ce soit un savant américain qui nous la montre. C'était une publicité pour du vin. On voyait une cigarette en train de brûler et c'était les colonies, c'était du vin algérien. Et une dernière remarque encore plus stupide. Exposé m'a ému pour une raison qui n'a sans doute rien à voir avec Peiresc, mais il y a un écrivain qui a enchanté ma jeunesse et peut-être celle d'autres ici, qui est un écrivain de la mer et un Marseillais. Et pour nous, ça ne va pas... Enfin, on sait, les Marseillais sont des Marais, mais enfin, ça ne va pas tellement ensemble. C'est Édouard Pesson. Et il y a dans... la description des réseaux maritimes, des réseaux de la culture, des réseaux du commerce que fait naître cet ancien capitaine de la marine marchande, quelque chose qui remontait en moi en vous écoutant parler, et probablement encore une fois stupidement, je me suis dit, eh bien voilà, si j'avais connu Peiresc plus tôt, je serais venu à Peiresc par Pesson, et la Méditerranée aurait été vraiment vivante pour moi.
Merci.
Oui. Monsieur, je vous ai écouté également avec un très grand intérêt, et je dois dire que ma vision de Peiresc s'en trouve sensiblement bouleversée. Alors, j'aimerais vous poser une question à propos de justement votre méditation simultané sur Brodel et sur Peiresc. Brodel a beaucoup écrit sur la question du point de vue. De quel point de vue et à quel point de vue doit se situer l'historien pour pouvoir embrasser un projet, par exemple, comme celui de la Méditerranée. Là, j'aimerais vous demander, en attendant de vous lire, si vous pouviez me dire comment, ou plutôt où, situez-vous Peiresc dorénavant. De quel point de vue jouit-il lorsqu'il observe le monde de son temps, en tant qu'historien, donnant-lui ce titre. Je dois dire que personnellement, je suis très troublé, et j'aimerais que vous m'éclairiez un petit peu là-dessus.
Difficile. Peiresc était engagé dans le monde de son temps. Nous pensons de temps en temps que les antiquaires étaient séparés, étaient, comme dans la critique du XVIIIe siècle, anciens, pas modernes, pas dans la société de leur vie. Et ce que je peux dire après 20 ans de travail, c'est absolument de l'autre côté. Peiresc était dans tous les contextes, absolument engagé. Question politique, absolument. Quand il était à Paris, il a visité les ateliers des artistes et artisans et il a écrit des recettes pour tous les processus qu'il a utilisés pour faire des objets. Il était dans le contexte économique de Marseille. Il était absolument intégré dans la vie des commerçants, des marchands. Il y a les visites que le patron a faites à Aix, qu'il a visité leur maison à Marseille. Et il a parlé avec tous ces gens, égal à égal. Il y a toute une série de projets sérieux, intellectuels, astronomie, botanique, comme ça, qui a donné à des capitaines et à des marchands de le faire pour lui en Syrie ou en Égypte. Donc, je peux dire qu'il était aristocrate, il était dans le Parlement, mais il n'a pas un sens hiérarchique qu'il était sur le top et les autres sur le bas. Absolument non.
Merci.
Vous venez d'entendre la communication de Peter Miller, historien américain, prononcée le 31 mai 2013 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Une retransmission de Canal Académie.